est au centre de recherche secret en matière de guerre bactériologique et mort de la peste. Cela nous ramène en plein Moyen Âge.
Et qui sont exactement les mêmes que celles dont nous fûmes comblés sans en être accablés depuis le 18 juin.
Le patronat français n'a jamais considéré d'un point de vue dogmatique la question de la durée du travail. La première obligation qui s'impose est de ne pas mettre en état d'infériorité l'industrie et le commerce du pays. Il s'agit simplement, dans l'intérêt de tous, de ne laisser perdre aucune occasion de produire et de vendre davantage.
Le coup d'œil sur l'histoire, le recul vers une période passé, ou, comme aurait dit Racine, vers un pays éloigné, vous donne des perspectives sur votre époque et vous permet d'y penser davantage, de voir davantage les problèmes qui sont les mêmes et au contraire les problèmes qui diffèrent ou les solutions.
Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. Bonjour. Les gazettes retentissent, ces temps-ci, des bruits qui entourent la succession prochaine de Pierre Gattaz à la tête du MEDEF, le mouvement des entreprises de France. Elles nous laissent apercevoir la complexité des forces qui s'affrontent à cette occasion, qu'il s'agisse, comme il est naturel, des ambitions individuelles ou qu'il s'agisse, ce qui est plus éclairant, des affrontements entre les différentes composantes du patronat français. Aujourd'hui, comme toujours, s'il advient quelquefois qu'elles sachent s'unir assez largement, contre ce qui leur apparaît comme un péril politique fondamental, elles sont le plus souvent travaillées par des antagonismes que nourrit la variété de la situation des entreprises. Variété de leur dimension et de leur champ d'action, bien sûr, mais aussi variété de leur situation par rapport au commerce intérieur ou extérieur et variété des personnels qu'ils emploient différemment organisés. Sans compter la constante divergence entre les clients et les fournisseurs. Toute chose qui se lit spécialement, de génération en génération, dans les évolutions contrastées et complexes du syndicalisme patronal. C'est donc à celui-ci que nous allons consacrer cette émission, en remontant au moins jusqu'au Second Empire et en tirant avantage de la compétence de Jean Garrigue, qui est en face de moi, Jean Garrigue, professeur d'histoire contemporaine à l'Université d'Orléans et président du Comité d'histoire parlementaire et politique. Il est l'auteur d'un ouvrage important, intitulé précisément « Les patrons et la politique » et sous-titré, dans sa dernière édition, « 150 ans de liaison dangereuse ». Dangereuse. L'adjectif est stimulant, pour le moins. Et nous allons écouter d'abord Yvon Gattaz, père du président sortant, qui l'a précédé dans la même fonction de 1981 à 1986.
Quand j'ai créé le mouvement éthique fin 75, il y avait justement à cette date le changement du conseil exécutif du CNBF. François Serac m'a appelé, m'a dit « Mais vos mouvements, il ne faudrait pas qu'ils soient un dissident, il ne faudrait pas qu'ils soient opposants au CNBF. » Je lui ai dit « Il n'en est pas question. Ça peut être un complément, un apporteur d'idées, d'innovation, d'enthousiasme. » Et bien, il dit « Rentrez donc au conseil exécutif. » Et je suis entré au conseil exécutif du CNBF, enfin, les 35 membres qui gouvernent le CNBF, au titre des 5 membres nommés par le président. C'est vrai qu'il y avait plusieurs lois entre nous, une certaine méfiance à mon égard. J'étais quand même le poussin noir. François Sirac me l'a dit nombreuses fois après, parce que c'est devenu un ami. Oui. Il m'a dit, les adversaires, j'aime mieux les avoir à l'intérieur qu'à l'extérieur. Il disait, au moins, ce ne sera pas un mouvement dissident qui pourrait éventuellement créer un schisme patronal.
Ah,
car la tentation est forte. Vous êtes à l'extérieur du CNPF, le CNPF ne comprend rien, grosse institution, trop lourd, ah nous on est les plus forts. Ah. Il faut éviter ça. Et nous ne sommes pas tombés dans ce panneau d'ailleurs. Ça m'a permis de lancer des idées nouvelles par éthique avec tous mes amis, un mouvement qui a grandi considérablement et qui, je crois, a beaucoup apporté au CNPF lui-même. Alors c'est vrai que c'était une surprise pour un chef d'entreprise. Je suis entré dans un milieu que je ne connaissais pas, un milieu qui a l'air très mystérieux vu de l'extérieur, qu'il est moins quand on est à l'intérieur, mais qui effectivement a ses traditions, ses règles, car finalement, voilà un organe, l'organisme, qui gère des intérêts contradictoires. Vous avez des présidents de fédération, vous avez les transporteurs et les transportés, les assureurs et les assurés. C'est donc très difficile. Donc le consensus est difficile dans ce milieu, qui représente à la fois des fédérations et des unions patronales interprofessionnelles. C'est vrai qu'il y avait peu de vrais patrons, et en tout cas très peu de patrons créateurs comme moi. Mais j'ai été reçu quand même de façon très courtoise, très très courtoise, peut-être avec un peu de méfiance. Et il est certain que personne ne pensait, moi le premier d'ailleurs, que je pourrais un jour devenir président.
Jean Garrig, bonjour.
Bonjour.
Nous avons donc entendu Yvon Gattaz qui s'exprimait en face de Philippe Simoneau dans Avoix Nue sur France Culture le 20 janvier 1998. Je l'ai choisi pour donner le coup d'envoi de notre conversation parce que dans un milieu où fleurit beaucoup de langues de bois, on peut le dire, il est plus disert, plus franc, il parle plus librement, il a le goût de la franchise. Et parfois, il est un peu marqué, comment dire, par l'ombre de l'esquisse d'un certain narcissisme. Mais ça n'en est que plus intéressant, non ?
Oui, Yvon Gattaz, il faut le rappeler, est arrivé dans un moment très particulier de l'histoire du patronat. C'était en 1981, avec la victoire de la gauche et de François Mitterrand, un raz-de-marée de la gauche qui avait totalement effrayé le patronat français. Certains voulaient même partir hors de France, pensaient que les chars russes allaient déferler sur la capitale.
Ça, c'est Poniatowski qui avait annoncé ça. Et celui qui était parti, c'était un Rothschild.
Exactement. Et qui disait « Juif sous Pétain, paria sous Mitterrand ». Bon, et ensuite, il est revenu. Il y avait donc une grande frayeur et Yvon Gattaz a été, au fond, choisi par ses pairs, par ce CNPF dans lequel il avait gagné sa place. Il avait été choisi pour ses capacités de négociation, pour incarner une ligne qui était un tout petit peu plus douce et plus, je le répète, consensuelle que ceux qui l'avaient précédé, notamment François Sérac et les autres.
Il ne venait pas du sommet des grandes entreprises. C'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'il nous parle des contradictions que nous allons voir tout au long de cette conversation, je crois, qui sont au travail parmi le monde du patronat français organisé.
Oui, il y a toujours eu des contradiction depuis le début, depuis que le patronat s'est organisé, c'est-à-dire à la fin du 19e siècle, on a bien vu d'emblée que face notamment sur la question douanière, la question de la protection ou de l'ouverture au marché extérieur, il y avait des clans extrêmement fermés, extrêmement constitués d'ailleurs. D'un côté, les industriels des mines, de la métallurgie ou du textile qui demandaient à l'État de les protéger. Et puis de l'autre côté, les grands négociants, les armateurs, les banquiers qui, au contraire, avaient intérêt à s'ouvrir. Et donc là, d'emblée, il y avait des affrontements extrêmement féroces entre les uns et les autres.
Il y a toujours au fond les trois thèmes dominants, les trois préoccupations, le protectionnisme, l'idée d'arrêter le flux de la législation fiscale ou sociale, toujours trop prompte pour la plupart d'entre eux, et puis lutter contre l'essor de l'interventionnisme de l'État. Vous remontez, Jean Garrig, à la Troisième République, permettez-moi d'aller un peu plus loin encore en arrière, car je crois que le Second Empire est déjà éclairant avec le fameux traité de libre-échange entre la France et l'Angleterre, le traité Cobden-Chevalier. Chevalier, Michel Chevalier était un saint-simonien. Ce traité avait déjà vu surgir des oppositions assez farouches du côté d'un certain patronat. Et c'est une des raisons aussi pour laquelle est né le comité d'effort. Je voudrais que vous nous rappeliez cela.
Vous avez tout à fait raison. On peut dire que c'est la première grande émotion patronale autour de ce traité de 1860, qui est un traité libre-échangiste. Et on voit notamment les patrons du textile et de la métallurgie se mobiliser, construire des alliances, des associations. Les patrons du Nord étaient d'ailleurs chefs de file de ce mouvement. Et c'est à cette occasion que se constitue un comité des forges en 1864 avec les grands noms de la métallurgie de l'époque, les Vindel, les Schneider, ça c'était les Vindel de Lorraine, les Schneider du Creusot, ou les Schneider, qui étaient vraiment les chefs de file de cette organisation, alors qui était à l'époque conjoncturelle, C'était une réunion comme ça de grands patrons, j'allais dire de grands notables, qui se réunissaient ponctuellement, mais avec des moyens de pression importants sur le pouvoir impérial, hein, qu'il côtoyait, qu'il fréquentait. N'oublions pas qu'un Schneider a été président du corps législatif. Eugène Schneider a été président du corps législatif sous le Second Empire. Donc ça leur permettait...
Vindel, d'ailleurs, était également député.
Exactement. Et ça leur permettait d'avoir barre sur la politique de Napoléon III.
On peut d'ailleurs observer que cette présence dans les instances politiques a été, à cette époque, remarquée, mais assez rare ensuite. La plupart des patrons pensaient qu'il valait mieux n'être pas trop visible. Et lorsque François II de Vindel, passionné de politique, se fait élire au Parlement, Chambre des députés, puis Sénat, dans sa famille, on regarde ça avec un peu d'inquiétude. Il ne faut pas être trop visible. Pour la période récente, il n'y a guère que les Dassault qu'on puisse signaler.
Oui, vous avez raison, hormis quelques grands managers comme Thierry Breton et d'autres qui ont franchi le pas.
Comme ministre, mais pas comme parlementaire.
Mais pas comme parlementaire, vous avez raison. La représentation patronale au sein des assemblées a toujours été assez réduite. Elle a été peut-être au tout début de la Troisième République, autour des milieux centristes, ce qu'on appelait le centre-gauche et le centre-droit. Il y a eu un moment où ils ont pensé, parce que la circonstance c'était de taille, parce qu'il fallait recréer un écosystème politique, créer une démocratie parlementaire et participer et influer sur cette démocratie parlementaire. Alors là, on a eu des Henri Germain, fondateur du Crédit Lyonnais, on a eu des Léon Say, grande famille à la fois d'économistes et aussi de conseils d'administration.
Eugène Étienne aussi pour le lobby colonial.
On a donc eu là une vingtaine, une trentaine, une cinquantaine même à un moment de patrons, véritablement de chefs d'entreprise ou de multi-administrateurs qui ont cru bon de siéger dans les assemblées.
Mais enfin, leur action essentielle est tout de même celle d'institutions, d'organismes qui tâchent de coaliser des forces qui peuvent conduire à défendre l'intérêt du patronat. Et c'est cette organisation progressive, ce qu'on a commencé d'appeler association, puis syndicalisation du patronat, que je voudrais que vous analysiez avec moi, en braquant l'attention sur sa genèse.
Une loi a été essentielle pour amener à cette structuration du patronat. C'est la fameuse loi Waldeck-Rousseau de 1884, autorisant, légalisant les syndicats. Et ce statut de syndicat a été ensuite emprunté par un certain nombre d'organisations, notamment par le Comité des Forges, qui en 1887, s'installant d'ailleurs dans les locaux du Crédit Lyonnais d'Henri Germain, que j'évoquais tout à l'heure, devient véritablement un syndicat et commence à se structurer.
Rue de Madrid,
exactement. La raison politique fondamentale de cette structuration des organisations patronales, c'est que, en face, il y a un mouvement ouvrier qui apparaît dans les années 1890, qui se structure sous la forme d'une Confédération Générale du Travail en 1895. Et donc, les patrons comprennent qu'il est nécessaire de transformer leur mode d'influence plus ou moins artisanaux, voire archaïque à l'époque, en quelque chose de beaucoup plus structuré. Et apparaissent plusieurs tentatives, plusieurs types d'organisations qui sont soit professionnelles, soit interprofessionnelles, qui veulent justement organiser et donner une unité au patronat.
Résurgence donc du Comité des Forges, qui avait un peu sommeillé dans l'intervalle. Apparition du Comité des Houillères, à la fois proche du premier et en même temps rival, bien sûr.
1887 est l'année où le Comité des Forges s'organise, se structure, se dote de locaux, de quelques permanents. C'est la même chose pour le Comité des Houillères, avec un certain Henri Darcy, d'ailleurs, qui avait été un ancien préfet de l'ordre moral. Bon, on voyait d'où il venait politiquement. C'est aussi le Comité des Armateurs qui va se structurer quelques années plus tard.
Du textile.
Comité du textile. Bref. Tous les grands secteurs professionnels se structurent aux alentours des années 1890-1900, précisément pour répondre à cette structuration du mouvement ouvrier, et aussi d'ailleurs à partir de l'exemple qu'ont donné les patrons du ce qu'on pourrait appeler le lobby colonial. C'est-à-dire que autour de la défense de la colonisation et des intérêts coloniaux, un certain nombre de patrons se sont structurés. Ils ont constitué en 1893 une union coloniale française, notamment dirigée par des gens comme Jules Charleroux, le prince d'Arenberg, etc.
Étienne,
qui a participé déjà. Aussi. Cette union coloniale, ainsi que les comités de l'Afrique française, comités de l'Asie française, etc., comités du Maroc, qui se sont organisés, ont donné l'idée au secteur professionnel, eux aussi, de prendre structure et de pérenniser leur organisation.
Vous évoquez, Jean Garrigue, le comité des Houillères, le comité central des Houillères, qui est donc né en 1887. C'est évidemment un des domaines où se lie de façon particulièrement claire l'opposition entre la CGT, les syndicats ouvriers, et d'autre part les syndicats patronaux. Pour restituer cette ambiance, je vous propose cet extrait du film de Claude Berry, Germinal, un film de 1993 d'après Émile Zola, et vous allez reconnaître probablement la voix de Gérard Depardieu, l'ouvrier, et Jacques Dacmine dans le rôle du patron. Un extrait qui est assez parlant, je trouve.
Monsieur le directeur, nous voulons seulement la justice. Nous sommes fatigués de crever de faim. Il serait temps que nous ayons au moins du pain tous les jours. Vous savez bien que nous ne pouvons pas accepter votre nouveau système de tarifs. Vous baissez le prix de la berline et vous prétendez compenser en payant le boisage à part. C'est pas possible, on y perd. La compagnie met 2 centimes de plus par berline dans sa poche. Voilà la vérité.
Non, la vérité, c'est que vous avez ici à des excitations malheureuses. Hein, c'est une vraie peste aujourd'hui qui souffle sur tous les ouvriers, qui corrompt même les meilleurs. On vous a dit que c'était votre tour d'être les maîtres. On vous enrégimente dans cette fameuse internationale. Cette armée de brigands qui ne rêve que de détruire la société. La compagnie est une providence pour ces hommes. Vous avez tort de la menacer.
Si la compagnie a des économies à faire, qu'elle les fasse ailleurs que sur la sueur des travailleurs.
Ah, nous y voilà. J'attendais cette accusation d'affamer le peuple et le vivre de sa sphère. Comment pouvez-vous dire des bêtises pareilles, vous qui devriez savoir quels risques énormes courent les capitaux dans l'industrie, dans les mines, par exemple. Est-ce que vous savez que la plupart des sociétés minières en France sont en faillite? Quand les ouvriers souffrent elles-mêmes. La compagnie a autant à perdre que vous dans cette crise. Elle n'est pas maîtresse des salaires. Elle obéit à la concurrence pour ne pas être ruinée. Prenez-vous-en au fait, et non pas à elle.
C'est en 1900, Jean Garrigue, qu'est créée l'Union des industries métallurgiques et minières, qui est un morceau essentiel du comité des forges, qui siège également rue de Madrid, et dont le principal animateur est un personnage qu'il faut restituer, car il est symbolique du point de vue qui nous occupe, le rôle des organisations patronales. Je veux dire Robert Pinault, ça s'écrit P-I-N-O-T, il est un peu oublié aujourd'hui. C'est vraiment le premier lobbyiste du patronat français. Voulez-vous le faire ressurgir ?
Avec plaisir, parce que c'est un personnage tout à fait intéressant, qui était un ancien élève de l'école libre des sciences politiques, surtout quelqu'un qui avait eu beaucoup d'amis dans le monde politique. Il avait été ami de jeunesse avec Raymond Poincaré, par exemple, et Joseph Caillaux, ce qui n'était pas rien pour l'époque. Ministre des Finances. Il avait été le secrétaire du baron de Mâcon, c'était un des grands noms du parti légitimiste à l'époque. Et puis, il s'était beaucoup intéressé aux questions sociales. C'était un chrétien social. Il avait dirigé le musée social, qui était une sorte de chambre d'initiative du paternalisme patronal. Il était passionné par ces questions. Et le fait d'avoir comme ça une sorte de carnet d'adresses qui s'était constitué dans sa jeunesse, et puis d'être passionné par tout ce qui concernait le social, a fait qu'il était l'homme idéal pour les patrons et pour coordonner l'influence justement que ce comité des forges, ce comité des houillères regroupé dans l'Union des industries métallurgiques et minières voulait donner en direction du pouvoir politique.
On le connaît bien puisque André-François Poncet, qui a été ensuite ambassadeur en Allemagne et en Italie avant la Seconde Guerre mondiale, qui a représenté la France ensuite en Allemagne après la libération, François Poncet, qui a commencé sa carrière comme employé du comité des forges, comme Exactement. Rédacteur du bulletin quotidien, Exactement. Qui était l'organe de celui-ci, et qui a inventé Robert Pinault, a écrit la biographie donc de Pinault. Ce n'est pas une hagiographie, mais enfin, on n'en est pas très loin. Et on voit bien comment, effectivement, Pinault est un agent au sens de l'époque, c'est-à-dire un permanent.
Oui.
ses relations avec, par exemple, François de Vindel, qui est président du comité des forges, qui est un des trois frères qui s'occupe de la maison de Vindel, ses relations sont parfois un peu difficiles. Car oui. Il trouve qu'il en fait trop, qu'il s'agisse, qu'il a envie de devenir lui-même vice-président, etc.
Il a eu une influence très importante sur le monde politique, qu'il côtoyait en permanence, qu'il inondait de textes, d'amendements, de projets de loi, des années 1900 jusqu'aux années 1920, jusqu'au lendemain de la guerre, où il envoyait encore des lettres confidentielles à Alexandre Millerand, par exemple, pour lui conseiller, au président de la République, pour lui conseiller d'envahir la Ruhr, et pour mettre sur pied des cartels, des plans d'entente avec les métallurgistes allemands, par exemple.
Vous parlez de Millerand, mais on ne réussit pas toujours. Il faut signaler que Millerand, qui est ministre du Commerce dans le gouvernement Valdecrousseau de 1899, a prévu un décret qui installait dans tous les secteurs industriels des conseils du travail chargés de régler les conflits sociaux, chose insupportable à l'époque. Pour les patrons, ils ont dû s'habituer ensuite, mais il prend la tête de la révolte patronale contre ce décret, d'ailleurs sans succès.
Et c'est d'ailleurs ce qui constitue la raison fondamentale de l'Union des industries métallurgiques et minières. C'est pour combattre ce décret de Millerand sur les conseils du travail, au fond, première instance d'arbitrage des conflits du travail dans les industries françaises, c'est pour combattre ces conseils du travail que se structure cette union des industries métallurgiques et minières autour du comité des forges et du comité des houillères, rejoint ensuite par des tas d'organisations patronales. Et c'est ce combat, qui est un combat politique de tous les instants, qui est mené et qui va faire que est créée cette union des industries métallurgiques et minières qui existe toujours.
Nous devons en venir maintenant, Jean Garrigue, à la période de la Grande Guerre, car elle est très importante dans l'histoire des organisations patronales dont nous parlons ce matin. Celles-ci sont renforcées par le conflit et qui aboutit à la naissance de la Confédération Générale de la Production Française, l'ancêtre du CNPF et du MEDEF, 1919. C'est le rôle d'ailleurs intéressant d'un homme politique, c'est de l'extérieur qui est suscité cette entente contre toutes les forces centrifuges qui, à l'époque comme aujourd'hui, travaillent le patronat.
C'est le paradoxe de la création de cette Confédération Générale de la Production Française au lendemain de la guerre en 1919. En fait, c'est un homme politique, c'est Étienne Clémentel, qui, comme vous l'avez rappelé, était ministre du Commerce pendant la guerre, qui avait d'ailleurs créé une structure qui s'appelait les consortiums, dans lequel justement collaboraient les hauts fonctionnaires de l'État et les patrons, les grands patrons français. C'est donc Étienne Clémentel qui, j'allais dire, a forcé la main de ces groupes patronaux, comité des forges, comité des houillères, union des industries métallurgiques et minières, armateurs et les autres, qui leur a forcé la main pour leur dire, il faut vraiment maintenant que vous arriviez à vous regrouper parce que l'État a besoin d'avoir un interlocuteur unique du patronat, parce que vous serez plus fort aussi, parce qu'en face, il y a la CGT, parce qu'il y a un certain nombre de réformes qui sont urgentes, qu'attend notamment le prolétariat français. Je pense à la réduction de la journée de travail à 8 heures, qui est venue en 1919. Donc pour toutes ces raisons, Étienne Clémentel a véritablement forcé la main des patrons pour qu'ils se constituent en organisation unique.
Avec méfiance d'ailleurs de beaucoup d'entre eux qui craignent que la nouvelle instance ne soit qu'un agent d'exécution de la politique ministérielle.
Très grande méfiance. Il faut se rappeler qu'en 1903, déjà, un certain André Lebon, qui avait été ministre, qui était aussi un multi-administrateur de société, proche d'ailleurs des milieux coloniaux, André Lebon déjà avait voulu constituer une sorte de grand syndicat patronal, ça s'appelait la Fédération des industriels et commerçants français. Il s'était cassé les dents sur les divisions, les dissensions entre les différentes parties du patronat. Et donc il a fallu, comme vous le disiez, il a fallu l'influence de ce qui s'était passé pendant la guerre, l'expérience qui s'était nouée, notamment dans la collaboration entre le pouvoir politique et les patrons, pour que surgisse enfin cette organisation patronale unique, qui prétendait à représenter le monde patronal.
Et en définitive, les grands comités, surmontant leur première réticence, acceptent de faire partie de la nouvelle confédération, pour la mieux contrôler, dans le comité central, l'expression existe aussi sur ce bord-là, et pas seulement au Parti communiste, au comité central de la nouvelle confédération siègent tous les grands noms du monde patronal, qui claquent de façon très, très symbolique. François de Vindel, donc, qui est président du comité des forges, Gaston Japy, André Citroën, François Lehideux, qui est le gendre de Louis Renault, des automobiles, etc., etc. Et par conséquent, la Confédération est influente, mais elle continue d'être néanmoins divisée à l'intérieur d'elle-même. Et il faut que le cartel des gauches, première expérience de gauche, domination radicale de 1924, surgisse pour qu'elle manifeste plus d'unité qu'auparavant.
Oui, quand les gauches arrivent au pouvoir, au fond, ça conduit bien souvent le patronat, au moins provisoirement, à se rassembler. C'est ce qu'on a vu au moment du cartel des gauches en 1924, avec la Confédération Générale de la Production Française, et puis en 1936, face au Front Populaire, et puis en 1981, face à la gouvernance socialiste, François Mitterrand et sa majorité rose, sa vague rose de l'été 1981.
Du même coup, naît du côté de la gauche, forcément, une réticence plus grande encore à l'égard de ces instances et une tentation d'en mythifier d'ailleurs le pouvoir, ce qui est assez normal. On en exagère la cohérence et la cohésion, même si pour les démocrates, il y a toujours une nécessité de vigilance, bien sûr.
Oui, cette réticence est d'ailleurs très ancienne, puisque dès les années 1840, c'est vous dire, certains pamphlets comme ceux de Alphonse Toussenel, qui était un fouriériste, dénonçaient la féodalité financière.
Et Chirac, pas le nôtre, Auguste Chirac.
Pamphlétaire des années 1880, émule d'Édouard Drummond, qui dénonçait la mainmise des Juifs, roi de l'époque. Donc on voit qu'il y a eu une grande méfiance comme ça de la gauche, avec notamment dans les années 1930 cette thématique des 200 familles, hein, les 200 gros actionnaires de la Banque de France qui, aux yeux de la gauche, tenaient véritablement non seulement l'économie française, mais la décision politique dans l'entre-deux-guerres.
Leur influence est incontestable, leur toute-puissance est exagérée, mais Édouard Daladier effectivement fait mouche lorsqu'il emploie cette expression pour la première fois au congrès radical de Nantes en octobre 1934. Ce sont 200 familles, dit-il, qui par l'intermédiaire des conseils d'administration, par l'autorité grandissante de la banque qui émettait les actions et apportait le crédit, sont devenues les maîtresses indiscutables, non seulement de l'économie française, mais de la politique française elle-même. Ce sont des forces qu'un État démocratique ne devrait pas tolérer, que Richelieu n'eût pas toléré dans le royaume de France. Fin de citation. Et on voit, il y a un numéro de 1936 du journal Le Crapouillot, qui est consacré précisément aux 200 familles, avec un immense dépliant qui montre une sorte de toile d'araignée, et avec sur la couverture des personnages qui sont évoqués dans le film très célèbre de Jean Renoir, qui a porté le Front Populaire, 1936, le film « La vie est à nous ».
La France n'est pas aux Français, car elle est à 200 familles.
La France n'est pas aux Français, car elle est à ceux qui la pillent.
Mesdames, messieurs, venez avec nous, vous tous, jeunes, vieux, s'il vous plaît, suivez-nous. Ces gens qui sont vos ennemis, nous allons vous les montrer. Les ennemis de votre pays, vous allez les voir évoluer. Camarades, regardez!
France Culture, Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet.
Et on voit se défiler sur l'écran les figures de François de Vindel, Eugène Schneidre, Théodore Laurent, Louis Renault, Neuflis Schimberger, la banque protestante, André Lebon, etc., etc.
Oui, c'est une formule et des images qui ont fait mouche. On était précisément dans cette émulsion du Front Populaire où les radicaux, très intelligemment d'ailleurs, ont fait surgir cette thématique qui n'était pas une thématique marxiste, mais qui pouvait séduire les masses qui avaient besoin d'incarner justement ou d'infaire incarner les adversaires de classe qui étaient les leurs. Et donc cette thématique a été très très répandue au moment du Front Populaire, dans la campagne en 1935-1936. Ça a été quelque chose de très très fort, cette histoire des 200 familles. En réalité, ceux qui étaient surtout dans le collimateur, je dirais, de la gauche, c'était le conseil de régence de la Banque de France. Ces 12 banquiers et industriels très influents, notamment les Vindel et les Rothschild, qui quasiment trustaient les sièges.
François Vindel et Edouard Rothschild, effectivement, étaient très, très proches l'un de l'autre.
Voilà, et qui avaient fait des misères contre le cartel des gauches et qui se retrouvent au moment du Front Populaire. Le Front Populaire qui va d'ailleurs nationaliser la Banque de France, qui va lui donner un statut nouveau.
Mais dès cette période, en dépit de l'image générale qu'on a à gauche des 200 familles, il existe d'autres institutions patronales qui sont en rivalité. Je pense au comité Mascureau, plutôt centre-gauche, ou l'Union des intérêts économiques de Billiet, le bien nommé, puisqu'il distribue des subsides, notamment aux partis politiques. Il faut rappeler qu'à l'époque, il n'y a pas de financement public des bien partis sûr. Politiques, donc une grande hypocrisie recouvre le fait que ceux-ci vont chercher de l'argent, et forcément du côté de ceux qui en ont, c'est-à-dire le patronat. Mais pas un patronat rassemblé autour des 200 familles. Les choses sont beaucoup plus compliquées.
Évidemment, il ne faut pas croire que même la Confédération Générale de la Production Française est la voix unique du patronat. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, un comité comme celui d'Alfred Mascureau, qui avait été créé en 1900, et qui était très très proche au départ du Parti Radical, a prospéré et était très populaire auprès des, on va dire, des petites et moyennes entreprises de l'époque. Le public du comité Mascureau, qui a financé beaucoup les campagnes du Parti Radical, ce public-là était très différent de ces très grands patrons, les Vindel, les Schneider, et les autres, qui tenaient le comité des Forges. Et de la même manière, l'Union des intérêts économiques d'Ernest Billet, qui est devenu sénateur d'ailleurs, comme Mascureau, et qui portait un nom prédestiné puisqu'il distribuait de l'argent à une bonne centaine de candidats, voire 150 lors des élections de 1919 et 1924, eh bien, cette union des intérêts économiques essaimait, je veux dire, dans un public de patrons. Il y avait un journal, d'ailleurs, qui était lié à cette union, qui s'appelait « Le Réveil économique », et qui était lu par des patrons qui n'étaient pas les mêmes que ceux de cette oligarchie patronale concentrée, j'allais dire, dans le comité des Forges et le comité des Houillères.
Il faut insister un moment sur ces divisions, effectivement, des organisations patronales dont nous parlons ce matin. Il y a un épisode petit mais topique, lorsque vers 1932, les grands patrons souhaitent pousser dans le sens d'un scrutin pour la Chambre des députés, d'un scrutin à un tour proportionnel, il y a une levée de boucliers de la part de ceux qui représentent les bistrotiers, qui considèrent qu'avoir deux tours, c'est bien mieux pour leurs affaires.
Oui, on voit très bien là que le petit patronat, le patronat moyen, qui commence à se structurer aussi dans les années 30, avec des associations notamment antifiscales, eh bien ce patronat-là n'est pas du tout aligné sur les idées de la grande oligarchie patronale. Et d'ailleurs, ces dissensions vont éclater au moment du Front Populaire. En 1936, lorsque les grands dirigeants de la CGPF, Confédération Générale de la Production Française, vont négocier le fameux accord de Matignon avec Léon Blum, ils vont se retrouver face à une fronde des petites et moyennes entreprises qui leur reprochent d'avoir accepté les augmentations de salaire demandées par le Front Populaire et qui vont faire sécession.
Mais à vrai dire, les dissensions existent même parmi ceux qui apparaissent comme les grands patrons. Je pense par exemple à l'opposition de Camille Cavalier, qui est le patron de Pont-à-Mousson, qui fait des tuyaux principalement, contre les barons du fer. Il écrit, on retrouve ça dans ses archives, Camille Cavalier, « Si le comité des Forges nous considère comme des parents pauvres et nous envoie manger à la cuisine, nous donnerons notre démission et bientôt nous formerons notre petit comptoir dans lequel nous ferons entrer les gens qui ont des hauts fourneaux et des fonderies sans être aciéristes. Mais c'est idiot et j'espère bien qu'il suffira de protester énergiquement » pour avoir gain de cause. Quand on pénètre dans les archives du patronat ou des acteurs majeurs, on trouve constamment des oppositions de ce genre. Il est vrai qu'elles s'accentuent encore au moment des accords Matignon et de 1936.
À ce moment-là, on voit une véritable fronde patronale contre ceux qui avaient signé ces accords. Alors le président à l'époque de la CGPF était un chimiste, enfin un industriel de la chimie, qui était René Duchemin. Et puis surtout celui qui était l'agent de ces accords, qui était Alfred Lambert Ribot, qui avait connu un peu plus jeune Léon Blum.
Successeur de Pinault,
qui avait permis justement que soient signés ces accords. Et là, ça provoque véritablement une levée de boucliers de plusieurs secteurs patronaux qui ne sont pas du tout d'accord avec ces accords, les petites et moyennes entreprises rouspètes. Et puis, ça finit par une révolution de palais, puisque l'équipe du chemin est renversée et doit laisser place à un homme qui, d'ailleurs, lui-même n'était pas un patron, qui était un agent patronal, mais qui était la voix des frondeurs, et qui s'appelait Claude-Joseph Gignoux. Hein. Et ce Claude-Joseph Gignoux va devenir le nouveau président de la CGPF, mais... Et c'est une chose importante à noter, il en transforme le nom, l'acronyme reste CGPF, mais ça devient Confédération Générale du Patronat Français. Ce qui veut dire qu'on insiste sur la notion de patronat. Et d'ailleurs, Gignoux a publié quelque temps après un ouvrage qui s'appelait « Patrons, soyez des patrons », dans lequel il incitait justement les organisations patronales, les patrons, à résister à la pression de l'État.
Je sens, Jean Garrigue, que vous souhaitez que je vous fasse entendre la voix de... Claude-Joseph Gignoux. Cette archive est de 1936 et j'y ai adjoint un propos d'Ernest-Antoine Seyer au sujet des 35 heures, un propos de 1997 au moment où il va accéder à la direction du CNPF.
Le patronat français n'a jamais considéré d'un point de vue dogmatique la question de la durée du travail. Les convenances d'un régime du travail avec les nécessités de l'économie nationale ne dépendent pas du chiffre des heures de travail, mais bien de considérations pratiques extrêmement simples. La première obligation qui s'impose est de ne pas mettre en état d'infériorité l'industrie et le commerce du pays, soit en produisant trop cher parce qu'on ne produit plus assez, soit encore en important du dehors ce que le pays ne produit plus en quantité suffisante. Il s'agit simplement, dans l'intérêt de tous et d'abord du pays, de ne laisser perdre aucune occasion de produire et de vendre davantage. Qui n'a à travailler aujourd'hui que pour 32 heures n'a évidemment pas besoin d'être autorisé à travailler plus de 40. Mais si demain un soudain retour de commande permet de tourner 45 heures, il faut qu'on puisse le faire. Ajoutons qu'il faut pouvoir le faire rapidement. Dans l'instabilité générale du moment, la clientèle, tant intérieure qu'extérieure, est fugitive et transitoire. Il faut être en mesure de la servir quand elle se présente. Ou bien elle va ailleurs.
Il n'y a pas de table de négociation sur les 35 heures. Il y a l'État, le gouvernement, qui décide souverainement, en ne faisant d'ailleurs aucun cas de l'opinion de 100% des entrepreneurs. Si vous appelez ça la négociation, moi pas. Les 35 heures posent un énorme problème aux entreprises. Si je suis élu, bien entendu, je devrais le traduire. Alors je crois qu'il faut en effet moderniser le CNPF, le rendre particulièrement fort, puisque n'ayant aucun pouvoir... Son seul pouvoir, c'est d'influencer les décideurs administratifs et politiques qui ont, encore une fois, tous les moyens de faire ce qu'ils veulent, librement. Il faut donc le rénover pour que ce soit le CNPF du 21e siècle et non celui de 1945.
Vous aurez salué, j'imagine, Jean Garrigue, une certaine concordance d'État.
Comme toujours, on combattait en 1936 les 40 heures, votées par le Front populaire. Et l'on combat en 1997 les 35 heures voulues par Dominique Strauss-Kahn et Martine Aubry. C'est d'ailleurs ce qui a provoqué cette question des 35 heures, la démission de Jean Gandois, qui à cette époque-là était le président du CNPF, et qui a laissé place justement, on va dire, au dur de son organisation, qui était Ernest-Antoine Seyler et... le président de la Fédération des Assurances, qui était Denis Kessler, qui était un peu l'idéologue de ce nouveau CNPF, et qui sont devenus le duo dirigeant, quelques mois plus tard, d'une nouvelle organisation qui s'appelait le Mouvement des Entreprises de France, le MEDEF.
Jean Gandois avait représenté cette tradition qui était plus ouverte à la négociation avec les forces sociales, les forces ouvrières.
Exactement.
Et il a été... blessé dans sa fonction par le fait que la ministre Martine Aubry a imposé d'en haut des décisions qui étaient peut-être vouées à aboutir avec quelques différences si on avait laissé la négociation s'avancer. Mais je ne cite cela que parce que ça peut éclairer la complexité du rôle des syndicats patronaux dans les décisions publiques. Avant 1940, il y a un personnage intéressant à évoquer parce que il marque la diversité de ses forces. C'est De Teuf, le président d'Alstom, l'auteur d'un livre immortel vers lequel je renvoie nos auditrices et nos auditeurs qui s'appelle Les propos de Barenton Confiseur.
Auguste De Teuf fait partie de ces patrons modernisateurs des années 30 qui ne veulent plus rester sur les vieux schémas de la CGPF qui s'est opposée de manière un peu frontale au Front populaire et qui voudraient introduire que ce soit d'ailleurs dans la gestion des entreprises, mais aussi dans les rapports entre les entreprises, le monde patronal et l'État, une modernité, des choses qui les fassent entrer véritablement dans le XXe siècle. Il y a eu le groupe X-Crise au début des années 30, avec Gérard Bardet. X-Crise, c'était des jeunes polytechniciens qui ont organisé une sorte de dialogue avec les politiques pour moderniser véritablement la France. Il y a eu Ernest Mercier, ce grand patron de l'électricité, qui lui aussi entendait moderniser le patronat.
C'est le redressement français d'Ernest Mercier.
Le redressement français avait été créé en 1927 par Ernest Mercier, et les cahiers du redressement français ont quand même alimenté beaucoup la réflexion d'un certain nombre de patrons, plus ou moins jeunes d'ailleurs, mais qui voulaient changer les choses. On retrouve l'écho d'ailleurs de leur réflexion dans ce célèbre plan du 9 juillet 1934 qui avait été publié dans la plupart des grands journaux parisiens, et où ces patrons-là, sous la houlette d'ailleurs et sous la caution de Jules Romain, proposaient des réformes, non seulement d'ailleurs dans le champ économique et social, mais aussi dans le champ politique, et participait de ce grand mouvement français de réformes. Et Auguste de Teuf, avec ses nouveaux cahiers, justement, se fait l'écho de cette modernité.
Il est président du syndicat général de la construction électrique, ce qui n'est pas mince, mais il a un recul par rapport à ce milieu-là. Il voudrait réunir, dit-il, dans les nouveaux cahiers, des hommes appartenant à des milieux très différents, fonctionnaires et anciens fonctionnaires, industriels, hommes de science, de lettres, des professions libérales, affiliés à des organisations patronales, croyants ou non, etc. Bref, il voudrait un dialogue dépolitisé et développer la négociation collective entre syndicats, patronaux et ouvriers, une négociation qui fait horreur à l'époque à la plupart de ses collègues. Et puis là, ce qui est significatif, beaucoup d'humour. Je renvoie au livre, c'est lui qui, en particulier, a eu ce propos immortel. Pour un chef d'entreprise, il y a trois façons de se ruiner. Le jeu, les femmes et les ingénieurs. Les deux premières façons sont plus agréables, la troisième est plus sûre.
Oui, ce monde des ingénieurs, justement, dont il était issu, a joué un rôle très important dans cette modernisation, en tout cas des idées patronales, et on les a trouvées dans la mouvance du Front Populaire, un certain nombre d'entre eux qui étaient dans les cabinets ministériels. Et puis, on va les retrouver dans le régime de Vichy. Il ne faut pas oublier que quelqu'un comme de Teuf est un des présidents d'un comité d'organisation, justement, de Vichy, c'est-à-dire cette structure corporatiste organisé par le régime de Vichy.
Qui a dissous les syndicats patronaux comme les syndicats ouvriers.
Exactement. Qui a procédé donc à la dissolution de la CGPF, et qui l'a remplacé par ses comités d'organisation. Et on a vu d'ailleurs que beaucoup des patrons qui, au fond, dirigeaient les grands comités professionnels de l'avant-guerre, enfin de l'entre-deux-guerres plus exactement, se retrouvaient à la tête de ces comités d'organisation. Mais on voit tout un jeu au sein de Vichy entre l'influence de ces rénovateurs du patronat et puis ceux qui veulent garder un peu leur territoire, et puis encore d'autres qui, eux, défendent les petites et moyennes entreprises, qui sont plus proches d'ailleurs du maréchal Pétain, de la vision que le maréchal Pétain se fait de la société française.
Ce qu'on peut dire, c'est que ces comités d'organisation contribuaient à structurer le patronat français d'une manière qui a perduré après la libération. Même si, évidemment, la libération est un mauvais moment pour les organisations patronales. On voit le général de Gaulle recevoir une délégation en lui disant « Messieurs, je n'ai pas vu beaucoup de vous à Londres, mais après tout, vous n'êtes pas en prison. »
Le général de Gaulle en voulait beaucoup à ses patrons français, qui, pour la plupart, il faut bien le dire, avaient joué sans trop de difficultés le jeu de la collaboration. Collaboration économique qui leur était imposée, mais pour certains, collaboration politique assez enthousiaste. On pense par exemple au grand self-made man qui était Eugène Schuller, le patron de L'Oréal, qui s'était manifesté véritablement comme un chaud partisan de l'Europe hitlérienne, et qui finalement n'a pas trop été victime de l'épuration.
Une histoire qui continue après la guerre. On crée en 1945 une commission de représentation patronale avec deux ou trois patrons qui ont été résistants, et qui permettent, dans cette période difficile pour le patronat, d'attendre des jours meilleurs et d'aboutir quelques mois plus tard à la naissance d'une nouvelle organisation patronale.
Oui, en fait, c'est un ministre socialiste, du général de Gaulle, Robert Lacoste, qui a permis la constitution, a entraîné la constitution d'une commission patronale, d'ailleurs dirigée par des hommes qui étaient déjà dans les comités d'organisation de Vichy, et c'est à partir de leur travail que s'est reconstituée une grande fédération patronale interprofessionnelle qui a pris le nom fin 1945, début 1946, de CNPF, Conseil National du Patronat Français.
Patronat, donc le mot là est accepté. C'est intéressant de voir qu'il a été tantôt accepté et même revendiqué, affiché, et tantôt refusé, comme c'est le cas à partir des années 2000.
Oui, c'est assez étonnant d'ailleurs, parce que au fond, on est dans une période, celle de la Libération, où le patronat a quand même plutôt mauvaise presse et où les patrons auraient plutôt intérêt à faire profil bas. C'est d'ailleurs ce qu'ils ont fait pendant quelques années. Mais on voit bien aussi leur volonté de se regrouper, de se rassembler pour peser sur la reconstruction de la France sous la 4e République. Et l'on voit bien comment Georges Villiers, qui était un patron qui avait été à la fois maire de Lyon sous Vichy, mais qui s'était distingué par des faits de résistance. Il avait quand même été déporté par les Allemands. Il avait failli même être exécuté par les Allemands. Mais Georges Villiers va reprendre le flambeau et faire renaître ce nouveau Conseil national du patronat français.
Et on voit se définir les ressorts, les leviers de l'action patronale pour peser sur la vie publique, au service toujours des finalités que nous évoquions, c'est-à-dire se méfier d'une progression trop rapide de la législation sociale, se méfier de l'intervention de l'État, et également, dans certains cas, défendre le protectionnisme. Par exemple, les sidérurgistes sont extrêmement violemment hostiles à la CECA, la Communauté Européenne du Charbon et de l'Acier, qui prévoit qu'on ouvre largement les frontières. C'est un signe d'ailleurs d'une certaine inefficacité. C'est un signe aussi du fait qu'ils sont loin de triompher toujours. Il y a d'autres ressorts. Je voudrais qu'on s'arrête un instant sur l'effort de ce syndicalisme patronal pour peser sur la presse. Et on voit plusieurs journaux, qui d'ailleurs n'ont pas vraiment marché, naître contre, par exemple, le journal Le Monde, Le Temps de Paris dans les années 50, où J'informe 20 ans plus tard. Je voudrais vous faire entendre ce que dit Jacques Ferry, qui a été un patron d'organisation qui a succédé au comité des forges après la guerre, Jacques Ferry, dans l'émission de Roger Piaudin consacrée à l'influence politique des milieux d'affaires. J'avais dialogué à l'époque avec lui. C'est une archive du 24 novembre 1981 sur France Culture.
Il y a incontestablement, et ça je vous parle d'expérience, une espèce de fascination qu'exerce la presse sur un certain nombre de patrons à différentes périodes. Je l'ai constaté. Soit vis-à-vis de patrons qui n'y voient, si vous voulez, qu'une nouvelle aventure à courir, qui se disent la presse est réputée souvent mal gérée du point de vue purement économique. Et moi, j'ai fait la preuve que j'étais capable de réussir dans mon domaine, pourquoi pas dans le domaine de la presse. Il y a incontestablement aussi le souci d'apparaître plus largement vis-à-vis de l'opinion, de pouvoir s'exprimer. Et puis, il y a effectivement, à certains moments, le réflexe d'un certain nombre de patrons ensemble qui disent « La presse qu'on nous livre est une presse que nous n'acceptons pas, qui est entièrement dirigée par des gens qui ne s'inspirent pas des mêmes principes que les nôtres. Nous n'y voyons pas un récit objectif de nos propres problèmes. Pourquoi ne nous doterions-nous pas nous-mêmes d'une presse ?» Ça, c'est un réflexe qu'on a constaté, pourquoi ne pas le dire, au moment du Temps de Paris, au moment que J'informe. Bien. Il faut dire que chaque fois, les résultats ont été très mauvais. D'abord parce qu'en cette matière, quoi qu'ils en pensent parfois, les chefs d'entreprise industrielle ou commerciale, si puissants soient-ils, si talentueux soient-ils, ne sont pas si facilement capables de s'assimiler aux conditions d'une entreprise de presse. C'est pas la même chose. Et la preuve a été faite, sauf rares exceptions, celle de Prouvot, par exemple, que on ne s'improvisait pas chef d'une entreprise de presse. Deuxièmement, parce que à partir du moment où l'on veut faire d'une entreprise de presse, faire d'un journal quelque chose qui est délibérément orienté dans un sens, on finit par dénaturer quelque peu le rôle de la presse lui-même.
On voit un certain nombre de chefs d'industrie, en effet, au déclin de leur âge, se dire que il serait bien agréable et intéressant de diriger un journal, mais ce ne sont pas forcément les mêmes qualités qui font un bon chef d'entreprise, comme le dit très bien Jacques Ferry, et un chef de presse, sauf, il cite le cas de Prouveau, Paris Match, Le Figaro, etc. Mais effectivement, c'est exceptionnel, Jean Garrigue.
Oui, c'est une vieille tradition hein, des patrons français depuis la fin du 19e siècle. Hein. Les grands journaux populaires de la fin du 19e siècle étaient quasiment tous entre les mains d'hommes d'affaires ou d'industriels, plus ou moins d'ailleurs efficaces. Mais on pense à des Maurice Buneau-Varilla, une sorte d'aventurier comme ça des affaires.
Mais il faut distinguer ceux qui ont fait fortune comme chef d'entreprise de presse et ceux qui, à un moment donné, veulent s'en saisir. Il y a eu les cas relativement efficaces de Boussac avec l'Aurore.
C'est ça, avec l'Aurore.
Et puis il y a eu le jeu de Marcel Dassault avec Jour de France, où il faisait des petites rubriques qui sont inoubliables.
Alors, il y a aussi le cas où c'est l'organisation patronale qui prend la main sur un journal. C'était le cas du Temps, le grand journal de référence des années 30, où là, c'était le comité des forges.
Oui, enfin, c'était un peu plus compliqué. C'était le comité des forges, le comité des houillères qui était intervenu. Le but était surtout que ça ne tombe pas dans des mains étrangères ou des mains trop avancées en termes politiques.
Voilà, c'était quand même une orientation politique. Et puis, alors, il y a eu des cas très particuliers, comme le cas de J'informe qui a été énoncé. J'informe, en 1977, est un journal qui est créé avec des capitaux qui viennent beaucoup d'ailleurs de l'Union des industries métallurgiques et minières pour combattre la montée en puissance de l'Union de la gauche qui allait aux élections de 1978, aux élections législatives de 1978. C'est Joseph Fontanet, figure politique du centre, qui en était le directeur, je dirais la figure de proue, mais c'était un journal objectivement financé par le monde patronal. Malheureusement, on a vu qu'au bout de 3 mois, ce journal a périclité et n'a eu aucun succès.
Les syndicats patronaux, et en particulier le CNPF, comme avant la guerre, pourvoient aussi aux dépenses électorales des candidats. Et il faut évoquer le fameux comité de Penthièvre avec Boutmy, André Boutmy, B-O-U-T-E-M-Y, ce n'est pas le Boutmy qui a fondé l'école libre des sciences politiques. André Boutmy qui est le grand dispensateur de l'argent du patronat.
Après Mascureau, après Ernest Billet, eh bien dans les années 50, c'est ce André Boutmy qui a toute une histoire, puisqu'il avait été, on peut dire, un collaborateur notoire aussi. Il avait été quand même préfet régional de Lyon. Et c'est à cette occasion qu'il avait connu Georges Villiers, maire de Lyon.
Il lui a sauvé la vie, en fait.
Il lui a sauvé la vie, donc.
Parce qu'il devait être condamné à mort par les Allemands. Exactement. Il était déporté.
Villiers, reconnaissant, l'a appelé à la tête de ce comité des études économiques et politiques du CNPF, qui était un moyen de financer les campagnes électorales, notamment celles de 1946 et 1951, où on pense que là, il a distribué assez gracieusement l'argent du patronat.
Il y avait une petite porte du côté de la rue de Penthièvre où les secrétaires généraux des partis venaient chercher leur billet. Toute la question est évidemment de savoir quel type d'influence cela a pu avoir pour modifier des points de vue, des attitudes.
Bah pour Boutmy, c'était clair, j'ai un adversaire, c'est le communisme. Donc tout ce qui était anticommuniste était bien pour lui, pour Boutmy, qui avait d'ailleurs des bons rapports à droite comme à gauche, hein, que ce soit avec Antoine Pinay, Roger Duchet du côté des indépendants, mais aussi avec Guy Mollet du côté de la SFIO. Hein, c'était ce qu'on appellerait un peu de l'arrosage électoral. Alors jusqu'au jour où un des amis de Boutmy, qui était le radical René Maillère, devenant président du Conseil, début 1953, a eu la mauvaise idée de nommer Boutmy ministre de la Santé.
Très bref ministre.
Les feux de l'actualité sont concentrés sur lui. Les communistes ont attaqué, ont fait valoir que les actes de Boutmy pendant l'occupation étaient sujets à caution. D'autres ont montré qu'il était le bailleur de fonds du patronat lors des élections. Et bon, Boutmy est revenu dans l'ombre, même s'il est resté d'ailleurs au Conseil de la République où il a siégé, c'est-à-dire le Sénat de l'époque.
Je ne voudrais pas que nous nous séparions, Jean Garrigue, sans que nous assistions à nouveau sur la diversité du monde patronal, et en particulier sur le surgissement, faire de génération, des jeunes patrons, souvent d'origine catholique, en 1965, qui s'indignent du manifeste du CNPF qui leur paraît d'un autre âge, ultra-libéral, etc. Écoutez donc ce qu'en dit Robert Valentini, qui est le président de ce groupe des jeunes patrons en 1965.
Le 21 janvier 1965 sera certainement une date, car il suit cette déclaration du CNPF qui a eu lieu il y a 48 heures, déclaration que certains ont d'ailleurs taxée d'archéolibéralisme, et elle a été suivie hier par une déclaration de notre mouvement. Ce qui caractérise le point actuel, c'est que jusqu'à présent, le patronat traditionnel, le Conseil national du patronat français, a fait la preuve de son absence totale d'imagination. Premièrement, depuis 18 ans, il n'a jamais été capable de prendre des positions claires sur des problèmes précis. Tout d'un coup, sous une pression de forces intérieures et extérieures, il éprouve le besoin de le faire. Et à cette occasion, il fait encore preuve d'une absence d'imagination, puisqu'il n'est pas capable d'imaginer une structure économique qui puisse satisfaire véritablement aux impératifs économiques de l'heure et aux aspirations des hommes, et que, toujours absent d'imagination, il ne trouve pas d'autre solution que de se raccrocher à une doctrine économique archaïque, dont même les pays voisins auxquels il se réfère ne font plus usage. Car si nous prenons le libéralisme allemand, eh bien, il est très loin du libéralisme décrit dans cette structure du CNPF. Et c'est là où nous divergeons, car dans une autre partie du monde patronal, qui est notre mouvement, le jeune patron, et aussi beaucoup de dirigeants de grandes entreprises, ces gens-là sont en recherche d'une organisation économique qui ne soit pas ce libéralisme absurde du renard libre dans le poulailler libre, ou cette intervention forcenée de l'État qu'est le marxisme. Et c'est dans cette voie médiane que ces gens sont en recherche. C'est cette recherche que le Conseil national du patronat français n'a pas su faire par, je le répète, absence totale d'imagination.
Absence totale d'imagination, c'est assez sévère de ce côté-là.
Oui, il y a toujours eu comme ça dans le patronat français des jeunes générations. C'était le cas dans les années 30, c'est là le cas dans les années 60, autour de Claude Neuschwander, autour de José Bidguin.
Neuschwander qui s'est occupé de l'IP.
Voilà, ces centres des jeunes patrons qui remettent totalement en cause l'inertie, l'archaïsme de leurs aînés. Ça se lit encore aujourd'hui. On voit très bien autour des milieux des start-upers, etc., comment est contestée la ligne officielle du MEDEF d'aujourd'hui, comment Ernest-Antoine Sellière avait été aussi beaucoup contesté lorsqu'il était à la tête de cette organisation. Et cette contestation, on la retrouve aussi de la part des petites et moyennes entreprises, hein, depuis toujours là aussi. On se souvient qu'au moment de la création du CNPF en 1945-46, très très vite, il y a eu une Confédération Générale des Petites et Moyennes Entreprises autour de Léon Gingembre qui s'est structurée en combattant ce qu'était la politique du CNPF. Il y a eu plus tard le SNPMI, des tas d'organisations comme ça qui témoignent justement de la diversité du monde patronal et des critiques qui sont faites à l'égard de ce qu'on pourrait considérer comme une sorte d'oligarchie patronale.
D'ailleurs, les patrons du CNPF qui se succèdent représentent tantôt un courant, tantôt un autre. Il y a le grand patron de l'ensemble du milieu, en réalité, qui est Ambroise Roux, dans les années 90 et suivantes. Et puis surgit, après Seyer, Laurence Parisot, qui est héritière d'une petite entreprise de bois du côté de la Haute-Saône. Donc les choses se succèdent et varient. On va voir ce que va donner l'élection du successeur de Gattaz. Est-ce que ce sera plutôt du côté d'une certaine dureté d'ensemble, méfiance, ou au contraire l'idée de tradition de conciliation, comme c'était le cas d'Yvon Gattaz, que nous vous donnions à entendre au début de l'émission?
L'alternance, qui est aujourd'hui finalement a été un peu la règle à la tête des organisations patronales, que ce soit du CNPF puis du MEDEF, voudrait au fond que aujourd'hui un patron ou une patronne, plus consensuelle, plus négociatrice que Pierre Gattaz, arrive à la tête de l'organisation. Mais ça, eux seuls peuvent le dire. On ne sait pas de quoi l'avenir du patronat sera fait.
Mais j'espère simplement que cette émission aura pu aider, Jean Garrigue aura pu aider à éclairer l'attention et la vigilance qui seront les nôtres devant cette succession à venir. Votre livre s'appelle « Les patrons et la politique, 150 ans de liaison dangereuse », réédité chez Perrin en 2011. Hommage soit rendu aussi à une œuvre majeure qui est le Dictionnaire historique des patrons français, qui a été publié sous la direction de Jean-Claude Doma, paru chez Flammarion en 2010. Je signale aussi le livre important de Henri Weber, Le Parti des patrons, le CNPF 1946-1986. C'est un livre paru au Seuil en 1991. Vous trouverez, vous le savez, une bibliographie plus complète sur notre site avec les références des documents sonores que nous avons utilisés, et vous pourrez écouter, réécouter et podcaster cette émission. La semaine prochaine, vous avez remarqué qu'on critique par moments la maire de Paris en affirmant que notre capitale serait un peu sale. C'est une vieille rengaine, parfois justifiée, parfois moins. Eh bien, nous parlerons en particulier du monde des chiffonniers avec Antoine Compagnon qui vient de leur consacrer un livre passionnant. Le titre de cette émission sera « Au défi de la fange, les ordures de Paris ». C'était Concordance des temps, une émission de Jean-Noël Jeannet, préparée par Nathalie Lempereur, avec aussi Jeanne Guéroux, une émission réalisée par Anne Kobilac, avec la prise de son Inès De Bruyne, avec Nathalie Rouvillain à la discothèque et Annie Lozana pour les archives de l'Institut National de l'Audiovisuel. Et dans quelques instants, vous allez retrouver Christine O'Krent pour son émission Affaires étrangères.